rencontre autour de la trilogie des contes immoraux pour Europe avec Fia Ménard, autrice et metteur en scène du spectacle, et également à nos côtés Séverine Leroy, maîtresse de conférences en études théâtrales. Peut-être vous demander de vous rapprocher un petit peu, ceux qui sont au fond, si vous le voulez bien, sans vous forcer à le faire pour que ça soit plus chaleureux et plus convivial. Voilà, comme première chose. Et peut-être avant de présenter un petit peu le spectacle et les choses et la compagnie et Fia Ménard, vous demandez aussi qui a vu le spectacle. Tout le monde? Bon, toi. C'est aussi pour savoir où est-ce qu'on se situe dans le divulgachage, comme on dit, ou non, voilà, du spectacle. Mais apparemment, une majorité l'a vu. Donc, on est plus sur une rencontre à l'issue, enfin, pas à l'issue, mais suite au spectacle et suite à votre perception. Très bien. Donc, Fia Ménard, de la compagnie Non Nova. Je vais peut-être rappeler deux, trois petites choses sur la compagnie. Et évidemment, si je dis n'importe quoi ou que j'oublie quelque chose, tu n'hésites surtout pas. Compagnie fondée en 98. Compagnie Non Nova qui voudrait dire nous n'inventons rien, nous le voyons différemment. Est-ce que c'est ça? Compagnie implantée à Nantes qui travaille pour des projets pluridisciplinaires et qui ont pour la plupart une tournée déjà internationale assez incroyable. Moi, j'étais encore très admirative ce matin en préparant ce temps par le nombre de villes et de pays traversés par la compagnie. Et un lien aussi, on y reviendra peut-être, avec le quai, assez fort, assez important, une longue histoire. Hein, la plupart des spectacles de la compagnie de Non Nova et de Fia Ménard sont passés ici ou ont été produits ou coproduits par le quai. C'est notamment depuis 2008, le projet ICE, est-ce qu'on dit ICE d'ailleurs, est-ce qu'on le dit à l'anglaise, on ne dit pas ICE, qui veut dire injonglabilité complémentaire des éléments, qui est donc le projet un peu phare, la ligne rouge de travail de la compagnie, le fil rouge, pas la ligne rouge d'ailleurs, le fil rouge, qui est en fait un processus de théâtre chorégraphique avec la matière, où l'idée c'est de travailler à la métamorphose, à l'érosion de la matière. Et de cette idée, de ce projet, sont nés quatre cycles différents à partir desquels certains spectacles appartiennent. Et à ce jour, donc on a quatre cycles, les pièces de glace, avec notamment Iceman, Black Monody, pour ceux qui auraient vu certaines de ces pièces, les pièces de vent, les pièces de l'eau et de la vapeur, avec Belle d'hier, Saison sèche. Et là, Contes immoraux, la trilogie des contes immoraux appartiendrait au cycle de la sublimation. Donc ça sera ma première question. Qu'est-ce que recouvre ce terme de sublimation pour toi? Et parce qu'autant par rapport à la matière et vent, voilà, les pièces de glace, les pièces de vent, autant on a tout de suite l'idée avec ce processus de travail, de transformation de la matière, autant sublimation, ça recouvre encore autre chose et peut-être au-delà. Donc voilà, ce serait une première question. Et j'ajouterais, pour rester sur le titre et la terminologie, que dans ce titre, la trilogie des contes immoraux, on a « pour Europe », mais « pour Europe » est entre parenthèses. Donc, est-ce qu'il est un peu moins... Voilà, un peu... Il n'est pas que pour l'Europe ?
Bon, déjà, bonjour à toutes et à tous. Bon, tu as deux questions, là, parce que la question de la sublimation et la question d'Europe. Je dirais que c'est assez simple sur la question de la sublimation. Ce sont des états de pensée. Je pense que c'est à un moment où vous essayez de trouver le terme exact. Dans la sublimation, pour moi, c'est dans les formes de transformation, celle qui n'est pas donnée tout de suite. Parce que je veux dire, lorsque je travaille avec de la glace, la décomposition de la matière était évidente, on la voyait. Dans la sublimation, il y a toujours cette... et là, c'est peut-être presque la métaphore, c'est que il y a quelque chose qui n'est pas visible du premier coup d'œil, mais qui apparaît si vous prenez le temps. Alors c'est pour ça que ce sont des pièces qui, elles, vont questionner la matière à un autre endroit. Ça, c'est pour la question de la sublimation. Pour la question de Europe, c'est surtout d'avoir mis le mot Europe sans le L apostrophe. Parce qu'il y a une question pour moi de ma génération. Voilà, j'ai 50 ans. Et j'ai eu finalement mes grands-parents, j'ai connu cette relation à ce siècle de conflits et donc des grandes guerres, et que je me souviens très très bien de la seule d'avoir été élevé que par des grands-mères, puisque tous les grands-pères étaient morts dans les guerres, c'était de dire plus jamais la guerre. Et plus jamais la guerre, ça voulait dire que pour ma génération, c'était l'espoir de la réunification, l'espoir de cet apaisement d'une Europe, et donc de comprendre que finalement, le seul moyen d'éviter la guerre, c'est le dialogue. Le dialogue, ça veut donc dire que l'Europe est une notion de dialogue. Et dans tout dialogue, c'est une confrontation de points de vue. Donc ça veut dire que pour moi, lorsque l'on met le mot Europe avec le L apostrophe, on se trompe parce qu'on se dit toujours c'est l'autre. On définit l'autre. Alors que si on endossait chacun en nous-mêmes presque le prénom Europe, en disant je suis Europe, c'est-à-dire que je suis une partie intégrante de toutes ces communautés, de toutes ces histoires, de ce continent, alors ce serait vraiment intéressant. C'est pour ça que je le mets entre parenthèses pour bien l'évacuer de cette définition, et si vous l'écoutez, même dans les discours politiques ou même dans le dialogue qu'on peut avoir dès qu'on va parler d'Europe, on met souvent l'Europe. Et si on questionne ce L apostrophe, on se re-questionne complètement de cette position du point de vue. Parce qu'on dit l'autre. Et le point de vue de l'autre, c'est qu'on se positionne sur sa propre position en disant c'est là-bas, ce n'est pas moi.
Une distance, ouais.
Et qui finalement, moi, me ramène sans arrêt à des questions qu'on retrouve chez Deleuze, qu'on retrouve, et qui sont des définitions finalement de qu'est-ce que c'est que cette appropriation ou peut-être cette question très simple qu'il nous faut résoudre, c'est de dire pourquoi les autres, on n'a pas le droit de les accueillir et pourquoi on accueille certains. Et ça, c'est profondément le sujet qui m'a imprégné au moment où j'écris finalement la trilogie des contes immoraux.
Super intéressant. Et est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de faire corps, j'ai envie d'aller jusque-là, avec Europe?
Bien sûr, on n'a pas le choix. Je pense que le corps... Oui, mais dans le spectacle, ce que je veux dire, faire corps d'Europe, c'est le corps qui sont des corps symboliques. Ils sont endossés. Je veux dire, ils sont endossés dans tous les personnages qui sont en effet sur scène. Que ce soit en effet cette Athéna punk de la maison mère ou cette dominatrice de Temple Père, mais aussi ce que nous on nomme les quatre esclaves du Temple Père. Ce sont les corps d'Europe. Ce sont les corps à différentes étapes qui ont une relation de cette question de la hiérarchie et du pouvoir. Parce que dedans, il ne faut pas oublier que si je choisis ce thème-là, je le choisis non pas par défaut, mais par une question simple. C'est que nous avons dans l'idée de la démocratie un rappel qui est la construction de la démocratie européenne sur le modèle que nous avons fantasmé ou une lecture de la République d'Athènes qui n'était déjà pas une démocratie. Donc, en fait, la démocratie est une sorte de mythe dont nous questionnons sans arrêt. L'idée, c'est qu'elle doit être comme ça, mais finalement, c'est quelque chose qui doit s'inventer. Elle n'a toujours pas existé, la démocratie. Donc c'est bien à cet endroit-là où elle...
Aujourd'hui.
Lorsque, avec l'équipe, on écrit la trilogie, se pose fondamentalement cette question. Comment on va traiter de ce sujet-là, puisqu'on s'aperçoit bien que ce sujet-là n'est pas réellement une matière qui est... dont il faut discuter. Sinon, ça ne servira à rien de le faire au théâtre. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de pièces... viennent questionner la démocratie théâtre, parce que le théâtre est l'endroit justement
de ce collectif. Et justement dans ce forum, voilà, ça résonne pas mal. Et justement, en parlant de matière, ça serait peut-être une de nos premières questions aussi. Il n'y a pas de texte au préalable dans le travail. Il y a ce qu'on pourrait appeler, est-ce qu'on peut l'appeler, une dramaturgie de l'architecture, une dramaturgie de la construction. On n'a pas affaire à un texte au préalable. Et comment est-ce que tu comment est-ce que se construit cette dramaturgie de la construction? Est-ce qu'on peut la nommer comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te... On a vraiment l'impression que le récit se fait par la construction des différents édifices qui sont en train de se faire devant nous, du geste plastique. Cette question de la dramaturgie, comment toi tu l'abordes et comment tu... Est-ce que ça te semble cohérent, cette idée de dramaturgie de l'architecture?
Bon, alors déjà, il y a pour moi l'évidence que tout part d'une lecture.
D'une lecture.
Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est pas la question de la lecture n'est pas celle de lire le livre uniquement. La lecture est de savoir observer, regarder autour de soi, essayer de comprendre. Donc, ce que je veux dire, la lecture est c'est une forme qui t'amène à penser, à intégrer des idées, à comprendre, ou en tout cas à essayer de comprendre certains sujets. Lorsque, en 2016, la Documenta de Kassel, donc quinquennal d'art contemporain, dont il faut se rappeler...
En Allemagne, Kassel,
en Basse-Saxe, la nécessité, parce qu'il y a une question qu'il faut ramener aussi, pourquoi ce sujet-là. Lorsqu'en 2016... Adam Sismic, Paul B. Preciado me passent commande comme à 100 artistes internationaux de réfléchir à deux questions. Apprendre d'Athènes pour un parlement des corps. Que se passe-t-il à cette époque-là?
Apprendre d'Athènes et pour un parlement des corps.
Et pour un parlement des corps. À ce moment-là, on est dans l'histoire quand même de la Grèce qui vient d'élire le mouvement Syriza au pouvoir. Que le Conseil européen et notamment le Conseil sous l'influence énorme du ministre des Affaires allemand Schaub, qui veut un contrôle et une rigueur totale sur le déficit public des pays, fait qu'on va mettre sous tutelle la Grèce. Et cette tutelle, qui est quand même très très grave, va présager quand même une question assez importante et la contre-réaction est merveilleuse d'un directeur d'exposition comme Adam Sismic et de Paul B. Preciado en tant que philosophe, de dire, alors si on impose, alors on va aller aussi à cet endroit-là pour recueillir la question, la question justement, tu vois, de ce dialogue, qu'est-ce qui va se passer. Donc, comme tous les artistes, nous avons été confrontés, invités à nous poser la question, moi en tant que Française, voilà, d'origine, invité par une quinquennale d'art contemporain en Allemagne qui se situe dans une ville qui n'est pas n'importe quelle histoire. Kassel est la première ville à avoir élu un maire nazi en 1933, sur lequel on décide à la fin de la Seconde Guerre mondiale de recréer, notamment sur cette idée, c'est que qu'est-ce qui a fait que dans une ville où il n'y avait aucun problème économique, aucun problème social, on a quand même élu pour un parti fasciste, nazi, dangereux, incroyable. Et donc, si tu veux, le fait de reconstruire une société en misant sur la culture, sur l'art, sur la puissance...
Et l'art contemporain.
Mais ce n'était même pas l'art contemporain, parce que l'art contemporain, c'est un art qui est simplement celui qui se pratique à un moment donné. Je veux dire, les Médicis achetaient de l'art contemporain à leur époque. Et ça veut rien dire. Le mot contemporain ne veut rien dire. Le mot contemporain, c'est ce que nous sommes, c'est actuel. Je veux dire, à ce moment-là, on décide de dire la société doit se reconstruire sur la pensée. Et la pensée, une des meilleures façons de penser le monde est de le critiquer. La meilleure critique possible est celle de l'imaginaire. Donc l'imaginaire, c'est reproduire sans arrêt cette question. Je suis face à l'œuvre et qu'est-ce que provoque l'œuvre? Elle propose un doute, l'interprétation. L'interprétation est une réflexion. À ce moment-là, on reconstruit un monde. Et c'est ça qui se produit dans cette tentative-là. Donc moi, pour revenir sur le sujet, voilà, la première des questions, je vais à Athènes, je vais regarder Athènes, je vais voir ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça me fait moi en tant que Française de travailler pour... un projet en Allemagne, mais qui a pour sujet la Grèce. Donc ça repose automatiquement dans ce triangle la question de mon propre rapport à cette question européenne, de la différence, de cette question sociale, de cette question politique. Et puis j'en décide finalement une simple vision, c'est que je regarde l'Acropole, je regarde un paquet d'éléments, je regarde finalement comme le premier œil touristique, et puis finalement après je vais me perdre dans les quartiers plus lointains d'Athènes, puis je me dis, ben voilà, j'ai une confrontation, j'ai l'espèce de mystique de l'histoire de la Grèce antique, et puis j'ai la réalité de la société, et puis je me dis, tiens, c'est fou, au milieu, on ne connaît rien de l'histoire du Moyen-Âge de la Grèce, on ne connaît pas la Renaissance Grèce, on ne connaît même pas très très peu la fameuse dictature des colonels, je veux dire, on n'en sait rien, nous sommes ignares, il faut l'accepter, nous sommes ignares sur ces sujets. Donc à ce moment-là, je décide de dire, ok, si j'étais une artiste grecque, je ferais sauter le Parthénon. Justement sur la question du contemporain, en disant, aujourd'hui, si je faisais sauter le Parthénon, ce serait pour qu'on n'aille plus en Grèce pour aller simplement vénérer quelque chose, mais simplement rencontrer les Grecs, rencontrer la société, rencontrer peut-être qu'à ce moment-là, on s'intéresserait au Moyen-Âge grec. Parce qu'on ne serait plus fasciné, mais parce que c'est la fascination de l'image. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'écrire, finalement, c'est là où le déclic de me dire, tiens, il y a un sujet là-dessus. Et puis, le deuxième, c'est que Cassel, c'est la ville des frères Grimm. Et Grimm, c'est les contes. Alors, j'étais bien aussi obligé de me dire, ben voilà, il y a un peu un concours de circonstances, j'ai des symboliques, et j'ai en plus quelque chose qui me touche, c'est des contes. Et les contes, c'est vraiment intéressant quand c'est immoral. Et d'abord parce qu'il n'y a que l'immoralité qui est intéressante. La moralité est le truc le plus chiant possible et on ne va pas faire des spectacles sur la moralité. On a de la moralité tous les jours. Donc l'immoralité est ce qu'il y a de plus passionnant. C'est d'ailleurs pour ça que si on regarde, je ne sais pas, la peinture, l'histoire de l'art dans la peinture, c'est toujours le sujet de l'immoralité qui est là, traité, pour ramener les histoires de vertu, de moralité. Et c'est cette contradiction qui devient intéressante, qui fait penser. Donc, la trilogie, ce sont des contes. Et ce seront des contes qui vont parler par l'architecture, tout simplement parce que l'architecture, c'est la base de la société. C'est la base du regroupement des individus. C'est le fait de se protéger de la pluie, de se créer un toit, de mettre des murs, d'un seul coup, de se rapprocher pour générer le fait de s'entraider, et puis de structurer la ville. Parce qu'on va décider qu'un endroit sera là pour garder les graines, qu'on va donner à des personnes le travail de collecter les graines, de les garder pendant que les autres vont aller continuer à faire de l'agriculture, et ainsi de suite. Et c'est la création. C'est la création de la société. Donc, dans tout ça, j'étais obligé de passer par là. Donc, avec des figures symboliques, le Parthénon, cette maison mère, et puis cette partie qui est celle de la tour de Babel et qui a une relation aussi bien métaphorique, tu vois, les artistes qui passent, c'est vrai, métaphorique que aussi dans sa puissance de ce qu'elle raconte.
Il y a plein de choses. Du coup, il y a plein de choses. Et j'ai envie de donner la parole à Séverine aussi. Mais il y avait plein d'endroits où on a envie de rebondir en plus par rapport à plusieurs choses dont on a parlé aussi tout à l'heure sur la recherche et la construction de ce spectacle. Peut-être, Séverine, tu veux passer un peu la parole aussi sur cette notion de conte et ou de dramaturgie. Parce que je crois que tu avais une question là-dessus et une intervention ou sur autre chose, ouais, évidemment, par rapport
d'abord, à... D'abord, envie un petit peu de rebondir sur ce que... Magnifique chose que tu viens de dire. L'art comme le lieu de la reconstruction, tu prends l'exemple de Cassel. Et au moment où cette trilogie est présentée à nous, il s'est passé quelque chose. Il y a eu cette pandémie et tu parles d'un état de sidération. Et comment on fait aussi de l'espace du plateau, de l'espace artistique et de la relation au public, le lieu possible d'une reconstruction. Déjà aller sur cette direction. Et puis il y a autre chose... cette question des héritages dont tu parles, comme si l'héritage pétrifiait par rapport à la question de la société grecque. Est-ce que l'héritage pétrifie? Est-ce qu'alors on n'a pas un geste qui pourrait être de l'ordre du post-moderne? Déconstruire les récits pour construire autre chose, pour ouvrir un nouvel imaginaire et penser le monde du coup tel qu'il peut nous apparaître aujourd'hui.
Je ne pense pas que c'est déconstruire les récits. Je pense que c'est sans arrêt ne pas avoir peur de construire des nouveaux récits. Je pense que nous sommes complètement dans une société de la peur. Je veux dire, il y a un livre absolument magnifique de Miyakuto qui s'appelle « Murer la peur » et qui dit comme ça à la fin, peut-être qu'il y en a qui ont peur que la peur prenne fin. Et je crois qu'il y a quelque chose de ça. Nous sommes dans une société où, en effet, la peur est un moyen de gestion politique très fort. Donc, ça veut dire que dans la constitution des récits, on essaye de nous maintenir dans un récit de celui que nous semblons connaître et que on maintient une peur sur les nouveaux récits. Qu'est-ce que pourraient être les nouveaux récits? Je veux dire, c'est ceux-là qui sont intéressants.
Oui, justement.
C'est à quel endroit, nous, on doit aller, c'est-à-dire ne pas avoir peur de la construction des nouveaux récits.
Voilà.
Parce que ça veut dire que nous sommes dans l'obligation. Je veux dire, quand je dis, en effet, il faudrait détruire le Parthénon, bien sûr que c'est pas du tout le geste qui est à faire. C'est juste s'éloigner du Parthénon. Savoir qu'il est là, mais aller voir à quel endroit se font les nouveaux Parthénons, c'est-à-dire ceux qui se... Parce que quand on parlait tout à l'heure de la sublimation, c'est ça la sublimation. C'est nous sommes des sociétés qui mangeons. Nous sommes des goinfres. Nous sommes des goinfres d'une culture dont nous n'avons pas le temps de digérer. Nous ne les digérons pas. Je veux dire, c'est notre peur est de digérer, en fait. On a plus peur de notre propre merde que de ce qu'on mange. Et il y a un truc du rapport quand même terrible avec ça. Donc ça veut dire que c'est le temps de la digestion et de la sublimation. Cette sublimation, elle est bien à un moment, celle qui fait que dans tout ce qu'on a accumulé, il y a certaines choses qui nous restent, qui nous deviennent une évidence. Et celle-ci, il faut en faire un récit. Il faut en faire un récit. Et le récit, c'est la question de faire le récit du collectif et le récit de l'individu. Et je pense que pour l'instant, ce qu'on voit bien, c'est que notre problème, c'est qu'on est dans l'idée qu'on aimerait retrouver un récit du collectif, mais par la peur, on est maintenu dans le récit de l'individu. Et le récit de l'individu, c'est celui le plus pratique, en fait. C'est tu fais peur à un, tu fais peur à tout le monde, et plus personne ne fait rien. Je veux dire, on est dans une situation de société où je ne pense pas que qui que ce soit ne soit pas révolté de la différence entre un être humain et un autre sur son pouvoir de vivre et sur le fait qu'il y en a un qui est en train de survivre, voire crever, et puis l'autre qui, finalement... Je sais que nous avons, chaque individu a cette question-là. La question de l'empathie est une question profonde. Elle est née dans quelque chose de notre corps. C'est bien plus fort que ça, en fait. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne bougeons pas, nous ne nous révoltons pas? Qu'est-ce qui fait que nous ne franchissons pas? C'est bien là où la question du récit devient intéressante. C'est qu'on est bien obligé de se poser cette question. Je veux dire, Temple Père raconte ça. Temple Père... En effet, on l'a mis en scène de telle manière qu'il y a quelque chose d'absolument révoltant. C'est que les esclaves ne se révoltent jamais. Ils construisent, ils montent, ils sont là et ils ne se révoltent jamais. Et cette dominatrice leur sert des discours incroyables, comme quoi il faut absolument pour la machine, pour la société... pour un meilleur des mondes, il faut être docile parce que ça nous dépasse, parce que tout ça. Et je crois que c'est un peu ces sujets-là qui sont en germe dedans. Oui, bien sûr, mais parce que, comme je dis, le rapport du sadomasochisme, en tout cas dans sa pratique, c'est quand même peut-être la pratique la plus saine parce que, quelque part, c'est celle du contrat. Mais on peut dire aussi que le contrat est aussi, dans notre société, on sait très bien, la première chose qui fait la réalité d'un individu dans la société, c'est au moment où il a un contrat. Un contrat d'embauche. Un contrat, c'est un contrat.
Un contrat avec l'autre ou avec les autres ou avec la société.
Oui, mais c'est un contrat. Mais le modèle du contrat, de toute façon, dans la société, et un contrat qui remet cette question qui est dominant, qui est dominé. Et que nous n'arrivons pas, et c'est ça la grande question philosophique, c'est comment dépasser. Est-ce que nous sommes en capacité de construire une société sans avoir un rapport de domination et de dominé? Ça, moi, ça me passionne. J'aimerais imaginer, et c'est pour ça que j'imagine des sujets qui viennent sans arrêt se confronter à cette question en me disant, est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est absolument pas possible? Je n'ai pas la réponse. Mais par contre, je veux bien, et c'est là notre valeur de la question du théâtre. Les textes de théâtre depuis des siècles et des siècles reposent sans arrêt aussi cette question-là. Et nous sommes toujours sur ces sujets. Donc c'est là où c'est intéressant d'aller traiter. Et là, dans la trilogie, je crois tout particulièrement sur ce second conte qui est vraiment immoral.
Temple père,
eh bien, en effet, on repose cette question-là.
Oui, il y a pas mal de choses.
J'ai envie de rebondir sur la question des contes immoraux, justement. Puisqu'on parlait de dramaturgie, d'un départ, quelque part, on a mené une petite enquête. Et
c'est...
On a trouvé des choses sur les contes immoraux. Alors, est-ce que... D'où ça vient, ce titre? On a des pistes, mais on voudrait savoir si c'est lié.
Alors, ça peut venir, en effet, du réalisateur Borowitz.
Valérian Borowitz, qui est polonais et qui a vécu en France. Et
Alors, en effet, il a fait ce film, Les Contes immoraux. Mais je pense que le titre, il est assez évident. C'est-à-dire que pour moi, au moment où... c'est un clin d'œil au film, mais ça pourrait être un clin d'œil à Porcherie, ça pourrait être un clin d'œil à Pasolini. De toute façon, on les a. Ce que je veux dire, c'est... Ils sont évidents. Ils sont évidents. C'est-à-dire que c'est ceux qui dérangent. Ce que je veux dire, c'est au même titre que ce que je veux dire dedans. Tu vois, si tu lis aujourd'hui encore, tu relis encore Artaud, tu retombes dessus. Je veux dire, sur la question du rituel, sur la question et dans le rituel, donc le païen, il y a plein de questions de re-questionner l'humanité sous ce prisme-là. Et Borowitz le fait très bien. Il le fait très bien.
Moi, j'ai pas vu ce film. Désolée.
Je vous conseille La Bête. La Bête est beaucoup plus immorale.
C'est érotique, hein, c'est un film érotique.
Ah, c'est très érotique, ouais, bien sûr. Mais parce que pour moi, c'est évident. Ce que je veux dire, dans toutes mes pièces, il y a toujours cette question aussi de la forme d'érotisme, parce que ça fait partie. Non, mais c'est que ce que je vais dire dans la question même de l'animal que nous sommes, du corps animal, du corps humain comme corps animal, la sexualité est une partie complètement, on la cache, mais c'est la partie qui tient la société. Et je crois que là-dessus, il faut lire les textes justement de Paul B. Preciado sur la vie sexuelle, sur le rapport au sexe. Et je pense que c'est énorme, énorme. Ou Monique Wittig, on a plus que l'embarras du choix. Hein.
Non, là. Balancer Artaud.
Oui, ben.
Là, parce qu'on balaye rapidement.
Oui, mais parce que peut-être que ça paraît comme des noms qui reviennent souvent, mais j'ai la sensation aujourd'hui qu'ils ont posé des endroits dans lesquels on se sépare pas, tu vois, mais au même titre que. Je sais pas, hier soir, moi, je regardais en coulisses la trilogie, en tout cas le Temple Père. Hein. Je sais que dans ma tête, je regarde un truc et puis je pense à Tadeusz Kantor.
Ah.
Je pense, tu vois, ce que je veux dire. Mais parce que finalement, l'artiste, c'est une éponge, quoi. C'est une éponge. Tu vois, plus ça va, plus l'éponge, elle grossit, c'est spongieux. Et puis, il y a des moments, tu sens que tu recraches des choses. Je sais pas, je regarde La Tour et puis hier je pensais à un moment à Coloman Moser, je pensais à des, tu vois, aux Arts Déco, je pensais à des des états de corps. Je sais pas, hier soir, tu vois, on rentre de Vienne, on était à Vienne en Autriche, tu vois, d'un seul coup, tu t'aperçois que Il y a plein de moments où tu regardes des choses. Tu vois, je voyais Rémi en haut de la tour à un moment, pendant que Fanny et Erwan qui sont là se font couronner avec un baiser par Inga, dominatrice. Puis on voit Rémi qui est là-haut, on se demande s'il ne va pas sauter. Je repensais à un tableau de Egon Schiele. Donc, tu es sans arrêt imprégné par ça, quoi.
Du coup, ça veut dire que c'est des héritages, parce qu'on se posait vraiment la question des héritages. Nous, on a aussi pensé à Bob Wilson, on a pensé à Einstein on the Beach quand même. Moi, j'y ai fortement pensé hier soir, dans les mouvements hein, de cette chanteuse, comédienne.
Bien sûr.
Maîtresse de cérémonie.
Maîtresse de, tout à fait. Et c'est très, très prégnant. On a aussi pensé à tout ce qui est biomécanique, à Meyerhold, à ce rapport au corps, à ce rapport...
Constructivisme,
à la construction. Et donc, est-ce que c'est des héritages, effectivement, que tu... revendique, c'est peut-être pas très heureux comme terme et peut-être pas le approprié, mais qui sont clairement...
Qui circulent
de manière positive et assumée, ou
ce que je veux dire, c'est
heureux hasard, comme tu disais.
Non, mais c'est là où la réponse, elle est là. Ça circule parce que vous, regardez, vous voyez ça, nous, on le voit, tout le monde le voit. Je veux dire, la question... Ceux qui savent que ça existe, mais j'invite tout le monde à aller... regarder, même ne serait-ce qu'un minimum, même sans, juste pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce mot de constructivisme, qu'est-ce que c'est que ce mot, je sais pas, du Bauhaus, qu'on entend toujours, qu'est-ce que c'est, qui sont finalement aussi des choses qui, dans notre histoire, ne sont pas si loin que ça. Je veux dire, notre théâtre ne s'est pas défait encore de Tadeusz Kantor. Donc il est la cérémonie, on est encore dedans, et tant mieux, c'est qu'on n'a pas fini d'éprouver ça. Donc c'est quelque chose que nous avons à éprouver, et peut-être notamment, là c'est rigolo, on parle quand même, on donne des noms, et hormis Bob Wilson, on donne des noms d'artistes qui sont sur ce continent, qui ont fait ce continent, en tout cas dans une inspiration. Quelque chose.
On circule du côté des avant-gardes, en effet, et aussi de ceux qui se sont dépris du texte, de la toute-puissance du texte dramatique. C'est là, on a envie de t'emmener sur le terrain de la dramaturgie.
Mais c'est pas se déprendre du texte. Tu vois, par exemple, en effet,
dramatique.
Oui, oui. Si tu veux, la question du texte dramatique, parce que c'est une question pour moi qui est toujours très prégnante. Tu vois, par exemple, là, on est en train de travailler sur un projet d'opéra. Un opéra, bah, tu as un texte, tu as un livret, tu as une musique, tu as... voilà. Alors typiquement, bah, voilà, par exemple, Les Enfants Terribles, Jean Cocteau, écrit en 1929, tu vois, tu as un texte, et puis tu as un livret qui te tombe entre les mains, et c'est Philippe Glass. Alors, tu as déjà une confrontation entre Jean Cocteau, poète, auteur, dramaturge, tout, vraiment grand artiste... français de toute cette époque entre deux guerres et puis post-après-guerre jusqu'à cette rencontre avec un mouvement Philip Glass, mouvement des musiques minimalistes américaines, donc mouvement de musique contemporaine américaine.
Et le compositeur d'Einstein on the Beach.
Quel compositeur d'Einstein on the Beach, mais qui est aussi beaucoup de qui a composé beaucoup de musique pour la danse. Et dedans, bah, tu as en effet les questions qui se posent, c'est sans arrêt. Alors, tu vois, tu as les deux chanteurs, tu as Paul et Gérard, ils sont devant la porte, ils frappent la porte et ils crient Elisabeth, Elisabeth, ouvre-nous. Et puis, tu te poses la question, est-ce que tu vas mettre une porte ou est-ce que tu... Et automatiquement, tu vois bien que la question du texte dramatique pose une situation comme ça où il te donne des pistes. Mais toi, tu es sans arrêt à dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je suis la piste ou je me permets une petite fantaisie, mais bon, il faut quand même respecter la piste. Donc, c'est aussi une autre approche qui est celle d'une contrainte. Soit on se plie à cette contrainte et on y trouve un très grand plaisir, soit on a aussi cette possibilité de se dire, tiens, je m'en éloigne et puis je vais vraiment faire autre chose. Moi, je suis sans arrêt dans cette relation-là. Je ne suis pas lié... Je suis de plus en plus attiré par le texte dramatique parce qu'il y a des endroits qui m'intéressent. Mais c'est aussi comme une sorte de parcours, tu vois, entre... Je sais pas, hier, on parlait avec Daniel qui m'a connu, je jonglais. Et puis, au fur et à mesure, il y a un parcours qui se fait, qui est l'épreuve de l'art. Et l'épreuve de l'art, c'est aussi l'épreuve de la spectatrice. C'est l'épreuve de celle qui éprouve la question de l'art et qui vient de plus en plus à se poser la question, mais de plus en plus, qu'est-ce que j'ai à faire de ce théâtre? Pourquoi je ne m'en défais pas? Pourquoi j'ai besoin d'aller sur ce plateau? Pourquoi j'ai besoin de vous parler? Pourquoi j'ai besoin? Et finalement, est-ce que ce besoin est une nécessité absolue pour la société? Et est-ce que je vais considérer que ce que je vais mettre en branle est nécessaire? Et de quel droit? Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, tu te poses de plus en plus la question de trouver ce chemin-là. Et à un moment, tu rencontres sans arrêt le sujet dramatique comme un sujet appartenant au théâtre. Et en même temps, tu te poses la question, ok, si je veux que la société continue à aller au théâtre, je dois aussi m'impliquer en me disant qu'est-ce que la société fait de ces textes? Est-ce qu'elle en a encore besoin? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Qu'est-ce qu'on fait? Donc à un moment, tu croises ce chemin, mais tu n'en fais pas forcément obligation. Et puis, il y a ce côté aussi pour moi important, c'est que tout ce que j'écris part de textes, c'est-à-dire de livres, de choses qui sont là en permanence et puis qui ne sont pas des textes de théâtre, mais qui sont beaucoup plus... Des textes, des témoignages, des objets philosophiques ou, tu vois, là, des textes de John Journiot, ou des performeurs de la poésie contemporaine. Et typiquement, par exemple, dans le sujet de Temple Père, le texte est une matière. C'est ce qui fait aussi qu'on a préféré vous donner un livret plutôt que vous ne soyez face à des sous-titres. Parce que d'un seul coup, la beauté de la matière du langage devient beaucoup plus intéressante parce qu'elle vous permet de partir.
Si je peux me permettre d'intervenir juste là-dessus, il y a très peu de français. C'est aussi un choix qui est particulier. Il y en a, mais très peu. On a de l'allemand, on a de l'anglais, on a de l'islandais.
Ouais. Et le français n'est fait que pour rire.
Ah, ok.
Ben oui, parce que
de l'humour.
Le seul moment où elle parle en français, elle dit maintenant, faites votre autocritique. Et puis où elle dit vous n'avez toujours pas réussi. Si vous aviez déjà réussi, vous seriez à la retraite. Et qui est un peu sarcastique. Mais c'était aussi cette question en traitant de Europe, de dire que. Dans cette Europe, il y a ces langues dominatrices, il y a ces langues allemandes, anglaises, et puis il y a cette langue dont on ne sait pas du tout ce qu'elle est. Je veux dire, l'islandais, c'est la langue de Inga, et avec Jonathan Drillet, le dramaturge, pour nous, il était évident qu'on allait avoir le plaisir de cette langue, et de plaisir d'entendre ces fatum en islandais. Qui est une matière fantastique. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore entendre ça. C'est beau, quoi. C'est vraiment de la musique, quoi.
Peut-être sur le son, justement.
Oui, justement, nous invite à entrer sur la question de la dramaturgie du son, cette langue qui n'est pas juste du sens, mais en effet une matière sonore. Mmh. Et ce qui est absolument passionnant, c'est aussi la création sonore live qui est effectuée avec qui est de l'ordre de la performance, là, directement. Prise de son directe et réinjectée et remixée en live avec une composition de l'ordre de l'électroacoustique singulière à chaque soirée. Quoi.
Et la salle participe aussi à cette création.
Oui, alors ça, c'est malencontreux.
Ah, pardon.
C'est que les micros attrapent.
Non, c'est normal. Mais ça arrive tout le temps. C'est sûr que le travail de Yvan Roussel, avec qui je collabore depuis 25 ans, c'est un rapport de son particulier à chaque fois de faire évoluer. Là, c'est vrai que le fait d'avoir cette relation d'un son en direct avec un délai donne tout de suite quelque chose d'un matiérage, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant. Et après, c'est vrai qu'il y a ce travail de composition avec notamment tout ce qui va être chanté. Je veux dire, la performance chantée de Inga est vraiment incroyable parce que ça se compose aussi en direct. Et ça a été d'ailleurs un des travaux les plus délicats et qui continue à être délicat. C'est-à-dire qu'entre la régie et elle, il faut que ça colle, quoi. Il faut se comprendre. Donc c'est des pratiques après, mais comme à chaque fois, ce sont des essais, ce sont des tentatives.
Et du coup, ce qu'on a quand même, de parler de la lumière, juste qu'on a quand même un créateur lumière que moi j'admire profondément, puisqu'il y a Eric Soyer qui a aussi un rapport à la lumière de l'ordre de la matière. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, et je ne sais pas comment vous travaillez ensemble. Il y a un clair-obscur pour le début du deuxième tableau qui est quand même d'une beauté inouïe.
Assez à la Wilson, avec ce cyclo de fond qui renvoie.
Alors c'est vrai que là, il faut vraiment se le dire, à chaque fois qu'il y a un cyclo, maintenant, Bob Wilson, on peut lui payer des droits d'auteur à chaque fois.
Mais oui, Pommerat. Mais oui.
Oui.
Ouais.
Exactement. Ouais.
Et ça imprime tellement sa marque. Ça imprime tellement sa marque.
Ah bah oui, oui. Ah ouais, c'est ça, c'est-à-dire que Pedoudi faisait déjà ça avec Pedoudi, ouais. Mais en tout cas, dans l'idée, ouais, c'est sûr que le travail qu'a fait Eric est absolument phénoménal. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est la deuxième fois où on collabore ensemble en création, on a fait un opéra avant, il y a cette... c'est le moment où très vite il dessine l'idée que, par exemple, là c'est la première fois où on travaille avec des lumières, avec ce qu'on appelle des lumières asservies, donc vraiment des projecteurs qui peuvent suivre et qui donnent le mouvement. Et je crois que c'était la première fois où je me disais, tiens, mais là c'est vraiment super juste, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, cette dominatrice qu'on suit en permanence et qui est suivie en permanence, c'est presque le côté un peu chaud. Choix à l'américaine, tu vois, avec la poursuite qui se souvient, et en même temps qui parle de la société. Alors que finalement, le travail, c'est entre le travail de Fanny, d'Erwan, de Rémi et d'Élise, qui sont là en train de construire, et finalement en permanence dans l'ombre, qui est absolument terrible. Je disais ce midi en déjeunant que c'est quand même le rôle le plus difficile, parce qu'en fait... c'est un rôle ingrat, c'est le rôle de monter, je sais pas, hein, mais c'est le rôle de monter une tour, ça fait mal, c'est lourd, c'est un travail de dingue. Et en même temps, tu restes toujours dans l'ombre. Mais qui est vraiment le reflet dans la société. Et ça ne pouvait pas être autrement. C'est pour ça qu'il y a aussi, si ça avait été Walt Disney qui avait produit ce spectacle, ils auraient à la fin... ils seraient sortis, ils auraient assassiné, ou je ne sais pas quoi, ils auraient été parfaits, on les aurait mis en lumière.
Peut-être sur la question des figures, justement, moi j'ai été frappée par quelque chose, mais je ne sais pas si... et tout à l'heure, quand, dans le rapport à l'autre, quand tu parlais de l'autre et de l'individualisme ambiant ou prégnant dans la société, moi j'ai été frappée que ce soit des femmes, le premier, enfin, que sur tous les tableaux, c'est une femme seule à chaque fois. Qu'elle ait le pouvoir ou qu'elle construise ou que sa construction soit détruite, mais c'est une femme qui est toujours seule. En l'occurrence, et du coup ça me permet de te poser deux questions en une aussi. En l'occurrence, toi, pour le premier et troisième tableau, pourquoi ce choix d'avoir toi-même, est-ce que c'est toujours le cas avec tes différents gestes, tes différents projets, que tu sois au plateau également, et pourquoi ce choix d'une femme seule, même aussi sur le deuxième tableau, donc qui n'est pas interprété par toi, mais par
Inga.
Merci, excuse-moi, j'avais peur de mal le dire. Merci beaucoup, Inga, qui est super. Voilà, ce rapport à la solitude, en fait, à la...
Bon, le rapport à la solitude, c'est pas un rapport à la solitude, en fait. C'est dans un solo, tu décides d'écrire une forme où tu as besoin d'avoir une seule personne en scène. Donc ça, c'est une question.
Pour le premier.
Pour le premier et pour le dernier. Pour le dernier, ce qui est évident, c'est que, en effet, à la différence, dans la rencontre interdite, c'est moi-même qui descends. C'est moi-même l'individu et non pas l'artiste. C'est l'être humain qui revient à cet endroit-là. Et d'ailleurs, la chute du rideau cristal derrière me fait rentrer dans le même espace que vous. Finalement, je suis dans l'espace du spectateur. Donc ça veut dire que c'est complètement immersif et c'est l'endroit de notre humanité que je questionne. Donc c'était évident que ce serait cet acte-là. Pour revenir plutôt au choix après de Inga... Comme ça, d'évidence, on pourrait me dire, mais pourquoi tu as mis une femme alors que ce sont les hommes qui ont le pouvoir ? Je pense que et qui en plus érige une tour phallique. Ouais. Je pense que c'était évident pour moi d'entrée de jeu que lorsque je pensais à Temple Père, ce serait une femme qui jouerait le rôle de dominatrice, parce que en tant que voilà, militante, en tant que depuis des années défendant, questionnant des sujets que sont le patriarcat, que sont la question de l'identité, le patriarcat, j'en suis amené aussi au fur et à mesure de beaucoup de discussions à me dire, de toute façon, la société est tenue par les femmes. La société est tenue par les femmes, mais ce n'est pas elles qui ont le pouvoir. Ce qui est un gros paradoxe, c'est-à-dire que si les femmes s'arrêtaient, la société s'arrêterait. Parce que le fonctionnement de la société, finalement, ce sont ces quatre esclaves qui montent la tour. Alors ça me permettait aussi de dire, mais finalement, c'est aussi la vraie question que nous avons à résoudre. C'est qu'est-ce qui fait qu'on sait comment arrêter le patriarcat, mais qu'est-ce qui fait que nous ne le faisons pas ? Qui revient à la même question, arrêter, stopper. C'est-à-dire, il y a un moment où c'est la question justement de rompre avec cette situation. Et qui n'est pas une question simple. C'est justement ça qui pose bien la question. Mais je reprends un petit peu par rapport à Cassel, justement, pour répondre à cette question-là. En 1972, à la Documenta, est invité Joseph Beuys, grand artiste allemand, qui a vraiment posé énormément de questions, un des fondateurs des Grünen, donc le parti vert allemand, dont il se fera évincer au moment où il pose le vrai sujet, qu'est-ce que l'argent ? Parce que le fin fond est quand même cette question-là, l'argent. Et à ce moment-là, pendant les 120 jours de la Documenta, il tient un bureau. Et dans ce bureau, il note, c'est un bureau de réclamation. Et derrière lui est inscrit une revendication. Les femmes devraient être payées le double des hommes parce qu'elles font le double de travail. Première règle. Donc ça veut dire que c'était déjà, de toute façon, voilà, c'était très conscient. Il n'avait pas trouvé ça tout seul. Hein. C'était la réalité. Il avait bien juste constaté que ce n'était pas lui qui faisait sa lessive, ce n'était pas lui qui ne s'occupait pas de ses enfants, et ainsi de suite. Et que la charge mentale. Donc, mais sauf qu'il en était conscient. Donc il disait, OK, ben, la règle, c'est qu'il y a, voilà, il y a déjà ce problème-là, c'est évident. C'est un problème qui lui incombe à lui, mais qui nous incombe à nous aussi en tant que femmes. À ce sujet-là, voilà, c'est une des réponses. Donc je cherche aussi à cet endroit-là, quand je fais Temple Père, à proposer cette réflexion en disant qu'il faut la poser la question, c'est-à-dire à quel moment nous sommes capables de nous séparer de cette question-là. Mais qui vaut la même question que finalement la question de la révolution. Qu'est-ce qui fait qu'on ne faisons pas la révolution ? C'est qu'on ne fait pas la révolution parce que nous voulons profiter des fruits de la révolution. Mais nous venons de fêter le centenaire de la Commune de Paris et les communards n'ont pas profité de la Révolution. Jamais aucun révolutionnaire n'a profité de la Révolution. Et nous, on veut le beurre, l'argent du beurre et... Hein ? Ok, donc ça veut dire que c'est bien cette question-là que nous avons à résoudre. Le prochain pas du féminisme sera d'accepter qu'il faut se reposer cette question. Et... pour moi, il est évident que dans Temple Père, je pose cette question-là, puisqu'on construit quoi ? Une tour. En fait, on construit un phallus, qui est au final un manège, et qui est aussi le rapport du plaisir. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas échapper à la question sexuelle, il y a la question du plaisir. Et qui revient dedans, et qui est manifeste, et qu'il faut...
dans l'interprétation du...
voilà, et même si ça nous fait mal, il y a un truc qui se passe dedans... Et je pense que quelque part, il y a beaucoup de questions à cet endroit.
Sur le fait qu'il dépasse le cadre de scène, il n'est pas fini, c'est ça ? Cette tour, elle n'est pas finie. C'est l'idée de que ça pourrait encore s'ériger encore plus haut.
Oui, alors ça pourrait s'ériger encore plus haut. Je ne suis pas sûr que... Mais en fait, sortir du cadre de scène, ça voulait dire que ça ne s'arrête pas. Voilà, ce que je veux dire, c'est que... Temple Père parle de la société dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, je trouve qu'on est devenu tellement caricatural que c'est fantastique. Regardez cette tour Khalifa à Dubaï qui monte à 800 et quelques mètres. Mais qui veut aller vivre à 800 quelques mètres du sol? Personne. Il y a juste une grosse couille qui se dit « Ah, je vais pouvoir montrer ma grosse burne ». Mais c'est juste ça. C'est qu'une histoire. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'évident et qu'il faut confronter. Qu'est-ce que c'est qu'une tour Trump? Qu'est-ce que c'est qu'une tour qu'on érige? C'est juste montrer son pouvoir. Vous prenez n'importe quelle personne, architecte ou quelqu'un qui travaille sur l'aménagement, sur des choses comme ça, la solution n'est pas la tour, on le sait. La tour n'est qu'un objet de démonstration. Monstration, qu'est-ce qui fait que dans une société, on parle d'une tour, c'est pour la monstration.
Ça rappelle les tours de San Gimignano. Voilà, aujourd'hui on visite San Gimignano, il n'y a que des tours, il en reste quelques-unes.
Ce que je veux dire, c'est que cette tour, c'est la tour de Babel. Il faut reprendre le mythe de la tour de Babel et aller le rechercher dans cet ancien testament, et vous verrez que finalement, ça reste là. Il reste dedans, alors qu'on soit croyant ou pas croyant comme moi, je regarde juste une réalité, c'est que je m'aperçois que on érige des tours. On érige quelque chose qui ne sont que des symboles de pouvoir, comme on va faire construire son plus gros yacht, comme on va montrer ses plus belles chaussures, comme on va... Alors, c'est une histoire de confrontation.
Moi, je me demandais s'il n'y avait pas une réponse dans le costume, les chaussures. Parce que tu parles de domination vers le ciel, de monstration, en allant vers le plus haut possible, etc. Ce qu'on entend bien et qu'on connaît et qu'on voit, malheureusement, il y a beaucoup d'exemples, et puis qui est très, très bien, très pertinent au plateau, très percutant là-dessus. Et elles ont des chaussures. À chaque fois, vous avez des chaussures qui sont extraits comme des crampons, comme si on voulait s'ancrer, comme une réponse à cette élévation, pour s'ancrer dans le sol et s'enraciner avec une sorte de crampons où on aurait dit des matériaux même de... Ça ressemble un peu à des trucs de travaux, d'ailleurs. On a l'impression qu'on va qu'il faut vraiment pas oublier que la construction se fait à partir du sol et cet ancrage. Est-ce que c'est comme une réponse? Certains spectateurs, on est plusieurs à avoir vu une réponse là-dedans.
Non, pas du tout. Les pompes que j'ai, c'est du détail de parure, c'est de la parure. Après, il est évident que dans Temple Père, t'as bien remarqué qu'il y a de l'eau. L'eau monte. Alors peut-être que bientôt, si en effet on continue, l'eau va tellement monter qu'il y a des endroits où on aura peut-être l'habitude d'avoir des échasses pour pouvoir marcher.
C'est quand même pas cher.
Donc voilà, mais c'est de la parure.
Puisqu'on parle d'eau, on pourrait y voir une fable écologique aussi, dans les deux, Maison-Mère et Temple Père.
Je crois qu'il ne faut pas faire de fable sur l'écologie. Je pense que c'est une question beaucoup plus...
À l'endroit de l'artiste.
En fait, oui, mais à l'endroit de l'artiste, je veux dire, c'est l'endroit de... Est-ce que je veux dire, un théâtre, c'est un endroit absolument génial. C'est quand même le seul endroit où tu peux, en quelques heures, construire une société, construire un monde et la rejeter. Je veux dire, c'est la feuille blanche que tu prends et que tu prends, tu dessines dessus, tu la rejettes, c'est absolument génial, quoi. Donc le théâtre, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut le défendre. Il faut le défendre parce que c'est justement cet endroit-là où tu as cette possibilité sans arrêt de reconstruire des mondes qui, de toute façon, devraient... qui ne sont que des mondes d'essai. C'est l'endroit le plus fantastique pour ça. C'est le monde de l'essai.
Est-ce que, comme je vois aussi un peu l'heure qui avance, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle? Oui, déjà, voilà, jeune homme, monsieur. Très bien. Comment ça marche? Il faut répéter la question, je crois, pour l'enregistrement. Comment est-ce que ça marche concrètement? Et comment est-ce que l'eau, elle arrive et elle repart?
L'eau, tu sais, c'est un bout de robinet, un bout de tuyau, un sprinkler en haut. L'eau tombe, elle arrive dans une piscine. Piscine, tu as un aspirateur à eau. Alors, il y a une grande partie qui peut être utilisée. Après, la question, c'est que c'est de l'eau propre. Donc, elle repart directement dans le service des eaux sans qu'elle soit... elle ne demande pas plus de traitement. Donc, ça, c'est quand même le grand avantage. C'est-à-dire que le carton, c'est de la ouate. Et la colle, ben, c'est de la cellulose, donc c'est pareil. Hein ?
T'entends pas, Cyril ?
La peinture, c'est une gouache. C'est une gouache naturelle. Okay. Qui tâche, mais naturelle.
Il y a un rapport à l'abondance et à...
Je veux dire, la question, c'est marrant, parce que sur la question écologique, j'aurais plus envie de dire que je suis plus agacé quand je vois, la semaine dernière, je reçois un message comme quoi, par exemple... C'est Jérôme Bell et puis l'artiste Katie Mitchell qui montent une pièce à Vidy-Lausanne où toutes les répétitions se passent sur Skype pour un spectacle qui va se jouer, ouais, qui se passe sur Skype. Jérôme chorégraphie en restant dessus dans son superbe loft en plein centre de Paris avec ses MacBooks, des spectacles qui se font à Vidy-Lausanne avec Katie Mitchell qui dirige un acteur suisse sur place et qui nous érige ça comme modèle de l'art. Je veux dire, il faut arrêter. Là, la compagnie Non Nova, c'est peanuts dans un acte, même par rapport à un simple tweet que nous envoyons ou un simple... Donc, il y a un moment, il faut relativiser une question très simple. C'est qu'en effet, faire un spectacle qui consomme de l'eau, qui consomme du carton et qui consomme, ce n'est même pas un impact. Ce n'est même pas un impact. C'est par contre un vrai état de conscience de dire, OK, on passe sans arrêt notre temps, nous, à savoir comment on récupère ces matériaux, qu'est-ce qu'on en fait, quelle est la qualité lorsqu'on la remet dans le circuit, qu'est-ce qu'on fait de cette matière. Et ça, je pense qu'il faut absolument faire gaffe parce qu'en ce moment, on a on a une vraie possibilité d'inquisition sur l'art qui est encore une nouvelle fois une idiotie.
C'est une de plus.
C'est une de plus, mais celle-ci, elle est quand même chiante. Parce que celle-ci, elle est très facilement valorisée parce qu'elle est médiatique, parce qu'elle est à un endroit, mais elle est à un endroit absolument nul. Je suis désolé de le dire, Jérôme Bell était peut-être un grand créateur, mais c'est un putain de feignant. C'est un putain de feignant.
Moi, je suis pas...
D'accord.
On
donc
va pas faire le débat.
Donc là-dessus, quand l'autre il vient nous faire des prodigués qu'on doit plus faire de tournée, qu'il faut plus prendre d'avion, eh bien, moi, je prendrais la réponse de Lia Rodriguez qui lui disait « Ah, ben, c'est super. Toi, pendant 20 ans, tu as voyagé dans le monde entier, tu as fait super. Et puis nous, il faudrait qu'on reste dans notre pays coincé, là, au Brésil. » Ah, bravo. Encore une belle forme de pouvoir, ça. Donc, il y a un moment, il faut arrêter avec ces conneries.
Je crois qu'il y a une question ou réaction là-bas.
Mais je pense que, pour te dire, le point de départ, il est assez simple. C'est-à-dire que automatiquement, c'est un choc qui intervient entre ce que je vois dans la société et puis des éléments qui sont aussi mon propre parcours de réflexion sur la société. Du coup, lorsque J'invente une tour. La première des choses que je vais regarder, ça a été de dire, tiens, je vais la faire en cartes. Alors, je prends un jeu de cartes et puis je commence à essayer de m'amuser. Finalement, je regarde, je commence à dessiner. Et puis, je commence à me dire, tiens, mais finalement, cette société, c'est comme un château de cartes. Si ça peut s'effondrer. Et à partir de là, je commence à me dire, qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Je vais dire, ça peut être que des acrobates. Ça ne peut être que des acrobates qui vont maîtriser leur notion de vertige, de danger, et je vais le penser avec eux comme un agrès. Je vais commencer à dire, ok, on va faire des cartes, comment ils peuvent les porter? Les cartes font 22 kilos, donc il a fallu qu'on teste le bois, la résistance du bois. Là, on s'entoure de toute notre équipe dans notre lieu à Nantes, où on va faire pendant des heures des tests, et on passe aussi bien du studio à l'atelier de construction en permanence pour voir l'endroit de la limite, l'endroit du danger, par exemple à quel moment la tour peut s'effondrer, quel est le risque. Et après, c'est vraiment un dialogue sans arrêt de comprendre que construire, ça veut dire que ça va donner une chorégraphie. Et que cette chorégraphie, on ne pourra pas y déroger. La seule chose, c'est que dedans, on peut y mettre des ponctuations qui vont faire que le spectateur peut penser à des choses. À quel moment on va vraiment convoquer l'image de la tour de Babel de Bruegel ? À quel moment on va plutôt perdre le spectateur dans une sorte de côté un peu science-fiction, parce qu'on a l'impression qu'il soit au-dessus d'un radeau. Et donc tous ces éléments-là, ils interviennent finalement aussi bien avec mon jeu de cartes dans mon bureau que en même temps sur le plateau. En même temps, à un moment, on s'est aperçu que physiquement, les artistes ne pouvaient pas indéfiniment travailler. Donc on a fait fabriquer une maquette découpée au laser. Et finalement, comme les parachutistes qui feraient des figures en l'air, ils répètent sur leur maquette, tac, moi je fais ça, toi tu fais ça, tu prends tel truc, toi c'est là. Et à partir de là, au moment où ils règlent ces choses-là, moi je vais écrire dedans tout ce qui va être très symbolique, c'est-à-dire de dire, ben voilà, les clavettes, ben je vais leur donner le rapport des petits cordons rouges avec des nœuds comme on peut retrouver dans le boucaqué. Je vais commencer à me dire, mais finalement, c'est aussi des sortes de bijoux. Quand elle prend, elle donne les clavettes, elle donne des noms, et puis d'un seul coup, elle se le met autour du cou, ça devient un bijou. Et je vais construire finalement l'objet en même temps, en regardant et en convoquant avec les artistes toutes les formes de rituels qu'on a pu voir, que ce soit des rituels en Inde ou des choses comme ça, toutes ces cérémonies qui sont montrées et qui font finalement que tu n'as qu'à regarder, observer pour comprendre ce qu'est un rituel. Parce qu'un rituel, on en a tous et toutes. Et à quel moment ça bascule dans le rituel, c'est au moment où on en a conscience. Et c'est ça qui fait que la construction de l'œuvre se fait comme ça. Et puis, au fur et à mesure où nous avons vraiment, je dirais, un peu l'ensemble, c'est-à-dire de dire, OK, par exemple, moi, j'adorais l'idée que cet anneau, il fallait que le rituel commence par ce grand anneau qui descende et de vraiment faire cette arrivée, finalement, c'est vraiment de la science-fiction, quoi. Et on est en pleine science-fiction, et d'un seul coup, vous permettez de révéler sans arrêt des nouveaux éléments par la science-fiction. Non, c'est bon. Mais en tout cas, Daniel, dessus, c'est sûr que lorsque j'écris une pièce comme ça, je ne laisse aucun détail. Et aujourd'hui, ça m'est impossible. C'est-à-dire que dans toutes les pièces, et même moi en tant que spectatrice, je suis sans arrêt à regarder jusqu'où est l'état de conscience du créateur ou de la créatrice, de chaque détail qu'il offre à voir. Et aussi, mais c'est, ce que je veux dire, c'est comme de la grande cuisine, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu travailles la saveur, Et travailler la saveur, c'est travailler comment elle est présentée jusqu'au moment où tu sais que ça développe le désir, le goût, la suggestion et le pouvoir de ce qui va produire l'ensemble de ces éléments. Donc, c'est-à-dire sans arrêt convoquer votre possible de machine humaine qui est dingue. Et c'est pour ça que je parle de la machine. Dedans, la machine, c'est nous. Nous sommes dingues. Nous avons des capacités incroyables. Ouais. On peut dire que c'est une forme de refus, oui. C'est vraisemblablement beaucoup plus une relation que je voulais absolument marquer. C'est qu'au moment où nous étions en création, c'est le moment où les théâtres nous ont été interdits. Et je pense que ça, et je vous l'adresse à vous, voilà, nouvelle génération, au moment où on nous a interdit une fois le théâtre, on nous l'interdira. Et au moment où on nous l'interdit, c'est à nous de nous battre spectateurs. Spectateur, pas que artiste, pas que équipe de théâtre, de dire il est interdit d'interdire le théâtre, il est interdit d'interdire l'art, il est interdit d'interdire l'accès à la pensée, parce que à ce moment-là, c'est vraiment la société qu'on détruit. Parce que au moment où on a autorisé à aller dans des lieux de culte et qu'on a interdit à nous autres d'aller dans notre lieu de culte, alors le danger est présent. Et donc il était évident pour moi, au moment où le rideau est tombé, et j'ai voulu symboliquement le marquer, le rideau qui tombe, c'est le moment où on nous a interdit l'accès à cette raison. Parce que c'est l'accès à la raison. La raison, c'est bien à cet endroit-là qu'elle se niche. C'est dans la possibilité d'aller remettre en question, et dans la remise en question, ça ne veut pas dire confrontation, ça veut dire se questionner sur le fond de pourquoi nous faisons les choses. Donc, j'ai peint en signe de protestation. Mais c'est pour ça que je fais une petite fenêtre. Parce que vous avez envie de voir derrière. Et ça, je vous le dis à vous, ne laissons plus jamais refermer les théâtres. Les théâtres n'ont jamais été des clusters. Les théâtres n'ont jamais été quoi que ce soit de cet endroit-là. Il faut arrêter là-dessus. Les spectateurs sont conscients, les artistes sont conscients. Et à un moment, il faut aussi avoir cette vraie confrontation.
Je trouve ça pas mal de finir là-dessus.
Merci.
Si ça vous va, de finir sur l'ouverture toujours plus essentielle des théâtres. Merci beaucoup, Fia. Merci à tous. Le spectacle joue à nouveau ce soir à 19h et demain à 17h. Vous pouvez le revoir ou en parler aussi autour de vous. Et il y a aussi plein d'autres spectacles dans le Go Festival. Très bon après-midi. Merci.